Annie Regon présente du patrimoine et des hommes dans Carrefour des Arts.
Bonjour, bienvenue dans ce Carrefour des Arts. Ici Annie Regon, nous allons parler aujourd'hui d'Émile Malle et plus particulièrement de l'une de ses œuvres importantes, La religieuse de la fin du Moyen-Âge en France. Nous rappelons rapidement que Émile Malle est né en 1862 et mort en 1954. Il a été membre de l'Académie française. Il a eu une très longue carrière, toujours au service de l'histoire de l'art et en particulier de l'art médiéval, même s'il a également étudié l'art de la contre-réforme. Les grandes étapes de sa carrière ont été en 1899, la soutenance de sa thèse sur l'art religieux au XIIIe siècle, en 1923, sa nomination à Rome à l'École française. Et puis, il a toujours continué à travailler sur ce sujet. Il est l'auteur de plusieurs centaines d'articles ou de livres. Sa méthode est une méthode qui nous paraît aujourd'hui intéressante, mais finalement qui est appliquée par d'autres personnes. Mais à l'époque où il l'a mise au point, donc à l'extrême fin du XIXe siècle, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. En effet, l'histoire de l'art était une discipline relativement naissante, elle n'était pas du tout pratiquée dans notre pays, il n'y avait qu'une seule chaire d'histoire de l'art à la Sorbonne, il n'y en avait dans aucune université de province, et donc on était au balbutiement de cette discipline, tout au moins au niveau universitaire et dans notre pays. L'originalité d'Émile Malle en son temps a été de confronter les œuvres que l'on pouvait voir, certaines œuvres aussi, comme certains manuscrits qui étaient moins visibles, mais il s'est beaucoup attaché aux œuvres qui étaient à la portée de chacun, c'est-à-dire essentiellement les sculptures et les vitraux des cathédrales et des grands monastères. Donc il a confronté ces œuvres avec les documents écrits qui s'y rapportaient. Toutes sortes de textes qui, en ce temps-là, n'étaient pas du tout connus, n'étaient pas publiés, des textes théologiques, des textes de dévotion, les textes de liturgie. Comme il était un très brillant latiniste, naturellement, il ne peinait pas du tout à entrer dans ces textes. Et c'est donc grâce à la confrontation entre ces textes et les images telles qu'on peut les voir même encore aujourd'hui, qu'il a mis au point sa méthode. Cette méthode permet de comprendre, on pourrait dire en profondeur, les œuvres d'art. Et il a accompli un énorme travail, aussi bien donc pour l'époque romane, l'époque gothique, que la fin du Moyen-Âge dont nous allons parler aujourd'hui, que pour l'époque baroque, que nous avons déjà évoquée. C'est tellement riche qu'actuellement, il y a des chercheurs qui travaillent encore sur la lancée d'Émile Malle, dans cette optique toujours de confrontation des images avec les textes. Aujourd'hui, nous allons nous attarder donc sur cet ouvrage, La religieuse de la fin du Moyen-Âge, qui est paru chez Armand Collin en 1908. Il va y avoir juste 100 ans l'année prochaine. Alors, c'est un gros ouvrage de 538 pages et qui a d'ailleurs été distingué par deux académies, par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et par l'Académie française. Il a reçu deux prix pour cet ouvrage. En fait, comme bien souvent, dans son livre, Émile Malle a regroupé des études qu'il avait publiées antérieurement ou des communications également qu'il avait faites, notamment à l'Académie des inscriptions. On peut dire que le fil conducteur de cet ouvrage, c'est le changement de l'iconographie chrétienne à la fin du Moyen-Âge. Il avait montré qu'au XIIe et XIIIe siècle, les artistes et ceux qui leur commandaient les œuvres suivaient certains textes. Et donc, il va nous montrer que à partir du XVe siècle, de la fin du XIVe siècle, au XVe siècle et début XVIe siècle, d'autres textes vont apparaître. Et puis surtout, la mentalité générale va changer. Pourquoi cela? Il explique ça très bien. En fait, c'est un phénomène que les historiens connaissent bien. Il y a eu au milieu du XIVe siècle une grande peste, en 1348 exactement. Cette peste a éclaté dans toute l'Europe. Elle a dévasté la population urbaine, en France comme ailleurs, si bien que la mort, l'idée de la mort s'est faite beaucoup plus présente, on peut dire, partout. Non pas que les gens ne mouraient pas avant, ils mouraient comme nous tous, mais la mort a été soudaine, brutale, et surtout il y avait des familles entières qui étaient décimées. Il y avait en particulier toutes sortes de problèmes économiques qui se sont greffés sur cette épidémie, des chantiers qui se sont arrêtés. des familles dont il ne restait plus qu'un ou deux membres. Enfin, tout ça, ce sont des conditions que l'on imagine difficilement actuellement dans notre pays. Et donc, les mentalités en ont été largement affectées. Alors, il explique tout cela très, très bien. Et il rattache à cette présence de la mort donc toute une étude qu'il a faite sur les danses macabres. Alors, les danses macabres, c'est une sorte de danse qui est représentée surtout en peinture. Ça existe seulement en peinture, ça n'existe pas en sculpture ou en vitrail. Donc, cette danse macabre regroupe à la fois des vivants et des squelettes qui sont entraînés dans une espèce de ronde infernale. Alors, c'est ce que l'on peut voir, par exemple, à l'abbatiale de la Chaise-Dieu. Mais il y en a d'autres. Il y en a une très célèbre à Kermaria en Bretagne. Il y en a aussi hors de France. Il y en a une à Lucerne, par exemple, qui est très célèbre. Alors, Émile Malle s'intéressait beaucoup à la peinture murale. En 1905, il avait édité avec... dans une histoire générale de l'art, il avait édité tout un chapitre qui était consacré à la peinture murale et donc il avait remarqué qu'un certain nombre de peintures murales de la fin de l'époque médiévale étaient marquées par cette idée de la mort et donc la danse macabre était un sujet tout à fait peu étudié à l'époque, qu'il a mis en avant. Il a également rapproché de cette danse macabre d'autres thèmes comme le thème du dit des trois morts et des trois vifs. Toutes sortes de thèmes où l'on voit apparaître la mort d'une manière réaliste, on pourrait dire. On voit des squelettes qui sont présentés à peu près comme des personnages. Alors ce texte est vraiment très intéressant et surtout très nouveau pour l'époque. Personne ne s'était intéressé à ce thème auparavant. Sinon, il y avait eu quand même, ce ne sont pas les artistes qui s'intéressent aux arts plastiques qui avait traité ce thème, mais peut-être, vous souvenez peut-être que dans le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, il y a une danse macabre. On entend des squelettes qui sont mentionnés sous forme, qui sont évoqués sous forme du xylophone qui donne un bruit assez étrange. Donc c'est le bruit des os tapant les uns contre les autres. Mais on peut dire qu'à part cette évocation musicale quand même assez réaliste, la danse macabre n'a pas été un sujet qui était très connu à cette époque. Et donc Émile Malle a vraiment ressorti le sujet de l'ombre. Il a également, dans cet ouvrage, traité de façon tout à fait nouvelle des aspects nouveaux du culte des saints. Des aspects nouveaux dus en particulier à l'influence franciscaine. Il a très bien étudié non seulement saint François d'Assise lui-même, mais saint François n'a pas été un écrivain très prolixe, c'était surtout quelqu'un qui agissait, il n'a pas laissé beaucoup de textes, il a laissé les Fioretti et puis quelques poèmes, mais ça n'était pas lui-même un théoricien, ce sont les saints qui l'ont suivi, en particulier saint Bonaventure, qui a écrit un certain nombre de textes, et où alors c'est tout à fait l'inverse de l'idée de la mort. C'est une idée qui est beaucoup plus consolatrice de la religion chrétienne. Il nous montre comment, pendant ces périodes d'épidémie, de désolation, il y a eu également des périodes de famine à la fin de l'époque médiévale, comment dans ces textes franciscains et dans cette douceur franciscaine, eh bien, on pouvait trouver tout de même un certain apaisement. C'est beaucoup moins angoissant que le thème de la mort, bien sûr, hein, de s'intéresser au texte franciscain et à l'iconographie franciscaine. Alors, il faut dire quand même que l'iconographie franciscaine proprement dite, elle est surtout visible en Italie. Mais Émile Malle connaissait très bien l'Italie. C'était là, d'ailleurs, où il avait reçu une sorte de choc qui l'avait entraîné à devenir historien de l'art médiéval. Il avait connu, en particulier, à Santa Maria Novella de Florence, dans la grande salle capitulaire, une sorte de choc, on peut dire ça comme ça, devant une fresque. Donc c'est ce qu'il avait un petit peu mis sur la voie de l'histoire de l'art médiéval. Et il connaissait extrêmement bien aussi donc, les peintures d'Assise et de toutes les églises franciscaines d'Italie qui sont évidemment toujours vouées à saint François. En France, on a moins de thèmes purement franciscains, mais ce qui est intéressant, c'est que l'esprit franciscain s'est répandu dans toute l'Europe, y compris en France. Donc, et Émile Malle en fait bien mention. Il nous montre à l'inverse de cette idée de la mort, une idée assez consolatrice, assez apaisante donc, de la religion à partir des textes, et donc ces textes qu'il rapproche des peintures. Il traite également d'autres thèmes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à évoquer, mais ce sont des thèmes intéressants dans la mesure où il prépare la Renaissance, il prépare la période qui viendra après. Il va en particulier s'intéresser au thème des triomphes. Alors le thème des triomphes, c'est un thème antique, ça n'est pas du tout à l'origine un thème chrétien. Mais il montre très bien comment, à cette époque, donc je dirais de la fin du XIVe au début du XVIe siècle, il y a un certain nombre de thèmes qui autrefois étaient connus uniquement par les érudits qui s'intéressaient à la culture de l'Antiquité, et puis qui vont, par ce phénomène donc de l'iconographie, c'est-à-dire des sujets qui sont traités par les artistes à la demande des commanditaires dans les cathédrales et dans les églises, ces thèmes vont donc ressurgir. On peut parler d'une résurgence de thèmes de l'Antiquité païenne dans le christianisme. Alors en particulier les triomphes, ces triomphes qui sont toujours représenté de la même manière, pratiquement, on a toujours un personnage sur un char qui est tiré par des animaux qui peuvent être des chevaux ailés, mais il peut y avoir aussi d'autres animaux, il peut y avoir des oiseaux, il peut y avoir des taureaux, il peut y avoir toutes sortes d'animaux, généralement par deux. Et donc ce thème triomphal, Émile Malle montre bien qu'on le retrouve, c'est une résurgence donc de l'Antiquité, mais il passe à l'époque médiévale dans l'iconographie à travers non pas des textes sacrés, mais à travers Pétrarque. Il est très attentif à cet auteur, donc qui est un auteur italien, mais qui vivait à Avignon, puisque Pétrarque faisait partie de la cour pontificale avant la peste, hein, à l'époque, juste avant, à l'époque donc où la papauté était à Avignon, et Pétrarque, reprenant en fait des thèmes qu'il avait surtout vus sur des sarcophages, sur des œuvres antiques, avait écrit un long poème, donc Les Triomphes, et ce poème a été repris dans l'iconographie. Et Émile Malle montre bien ce cheminement qui est vraiment très passionnant entre des œuvres antiques, un poème de l'époque médiévale, puis ensuite à nouveau une iconographie qui se répand partout. C'est-à-dire que c'est une iconographie qui pouvait être profane à l'origine, mais que l'on va très rapidement christianiser. Et on va montrer des thèmes de triomphe de personnages, par exemple de personnages bibliques ou de saints. Et évidemment, à notre époque, ça nous paraît un petit peu normal d'avoir toujours cette observation du va-et-vient entre le texte et l'image. On vit actuellement entouré d'images, partout il y a des images. Mais à l'époque où Émile Malle écrivait ces lignes, eh bien, c'était quelque chose qui paraissait comme totalement nouveau. Donc, à travers cet exemple des triomphes, et puis à travers également l'exemple des danses macabres, ainsi que celui du nouvel aspect du culte des saints, nous voyons bien que Émile Malle recherche une pensée organisatrice dans les textes des théologiens, ces théologiens qui dictaient leurs sujets aux artistes. Nous retrouvons Émile Malle dans ce carrefour des arts, et en particulier l'art français, et en particulier donc l'art religieux à la fin du Moyen-Âge. Je voulais indiquer que cet ouvrage donc a été édité en 1908 pour la première fois, qu'il reprenait un certain nombre de textes qu'il avait déjà lui-même publiés, mais dans des revues qui n'étaient pas toujours d'un accès très facile. Et donc, je voulais indiquer les différentes éditions de ce texte, car en effet, il était extrêmement novateur à l'époque à laquelle il a été écrit, comme d'ailleurs beaucoup d'œuvres d'Émile Malle. Donc, il a été très rapidement épuisé. D'autant plus que, comme je l'ai déjà indiqué, il avait été titulaire de plusieurs prix, non seulement de l'Académie française, mais aussi d'autres prix. Donc il a été réédité en 1922, en 1925, en 1931, en 1949, en 1969, donc après la mort de l'auteur, et une dernière édition en 1995, donc il y a un petit peu plus de 10 ans, une édition qui, autant que je sache, est encore accessible et que l'on peut trouver. Il a été également traduit dans plusieurs langues, puisque on peut dire qu'en Europe, Émile Malle a vraiment fait figure de novateur pour cette étude de l'iconographie. Et il a été ensuite suivi par de nombreux auteurs, qui ont étudié, aussi bien donc des historiens de l'art que des historiens tout court, parce que l'œuvre d'Émile Malle a été très très bien comprise par les historiens On peut dire qu'il a apporté une contribution à l'histoire tout court à travers cette attention qu'il a portée aux relations entre le texte et les images. Et on peut citer un certain nombre d'auteurs qui sont des auteurs encore vivants, qui doivent beaucoup à Émile Malle. Je pense par exemple à un historien de l'art qui est actuellement en poste à Genève, M. Jean Wirth, qui est un spécialiste de l'image médiévale et qui, bien sûr, va plus loin qu'Émile Malle. Il a dépassé le maître, comme toujours, mais je crois qu'il doit énormément à sa méthode. Et puis, il y a également M. Daniel Russo, qui est professeur à l'Université de Dijon, qui lui s'intéresse aussi beaucoup à l'image médiévale et qui est reparti très souvent de textes d'Émile Malle pour aller plus loin, pour élargir, pour approfondir aussi sa pensée. Je pense qu'il y aura encore plusieurs générations d'historiens de l'art qui pourront encore profiter de cet immense champ d'investigation qu'est l'image vue à travers donc ce problème de la relation texte-image.